Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans C'est pas du vent. Dans la famille Sankara, je demande la sœur cadette de son frère Thomas, le président burkinabé, père de la Révolution, assassiné le 15 octobre 1987. Elle a hérité la fibre militante et se bat, comme lui, pour la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. Il y a 10 ans, elle a fondé Yélémani, une ferme expérimentale à 8 km de Ouagadougou, qui applique les principes de l'agroécologie, réhabilite des méthodes ancestrale bannie pendant la colonisation et produit pour nourrir la population locale, mais aussi pour exporter. Blandine Sankara sera notre invitée tout à l'heure dans la seconde partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Lui aussi est engagé dans le combat pour que la question écologique soit enfin considérée comme un enjeu majeur et traitée comme tel par les politiques. Professeur de géographie, co-animateur du blog Géographie en mouvement, il publie « Nos mythologies écologiques, déconstruire les idées reçues sur le changement climatique » aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Renaud Duterme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en duplex de Bruxelles, dans le studio de RFI et Radio France, dans la capitale belge. Vous avertissez d'emblée le lecteur, ce petit livre doit être pris pour ce qu'il se veut, un outil au service des luttes en cours et à venir. Vous trouvez que les militants écologistes, comme les dirigeants de partis verts, manquent encore trop souvent d'arguments convaincants ?
Alors en fait, je m'adresse peut-être pas vraiment aux dirigeants politiques, mais plus aux citoyens lambda, entre guillemets. Puisque quand je parle de lutte, je pense que voilà, la plupart des luttes doivent venir d'en bas, doivent venir des quartiers, des entreprises, des lieux de vie, etc. Et donc c'est plus à ce genre de personnes que je m'adresse. Maintenant, il y a aussi un appel, notamment dans la conclusion, à une remise en question de certaines têtes pensantes du mouvement écologiste, qui sont à mon sens un peu des fois déconnectées des réalités sociales. Mais voilà, c'est plus de ces luttes-là dont il s'agit.
Mais pour vous, ce sont les croyances, les idées reçues, les idées fausses, les idées contestables qui empêchent la prise de conscience écologique ?
Alors, parmi d'autres facteurs, oui, incontestablement. Moi, je le vois maintenant, depuis que je m'intéresse à ces questions, depuis une quinzaine d'années, que ce soit dans des débats, dans des conférences, dans des émissions radio ou dans le cadre de mes cours avec mes élèves, on voit souvent des idées reçues comme ça qui reviennent, qui sont souvent les mêmes, en fait, alors qui, des fois, proviennent d'interrogations sincères, mais qui, d'autres fois, sont propagées par des acteurs économiques ou politiques pour que rien ne change.
Selon le dernier rapport du GIEC, hein, publié le 4 avril, nous n'avons plus que 3 ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre et espérer garder une planète vivable. Ce compte à rebours fait froid dans le dos, pourtant il est passé relativement inaperçu. Est-ce que cela veut dire que ces mythologies écologiques, comme vous les appelez, sont plus fortes que les rapports très alarmants des experts de l'ONU sur le climat ?
Entre autres, maintenant, je crois, parce que c'est clair qu'il y a une série de mythologies qui vraiment provoquent de l'inertie dans la prise de conscience. Hein. On pourra peut-être y revenir, notamment le fait qu'on trouvera des solutions technologiques à tout problème, par exemple. Mais il y a aussi, je pense, un problème dans cette succession de rapports et chez beaucoup de scientifiques qui est en train petit à petit d'être justement remise en cause, c'est que depuis maintenant 30, 40, 50 ans, les rapports sont de plus en plus alarmistes. Il y a un constat qui est de plus en plus partagé sur les faits. Et par contre, ce constat-là accouche d'une souris en termes de propositions. C'est-à-dire qu'il y a très rarement des analyses en termes de structure, en termes d'analyse systémique, de liens qui sont faits avec la nature de notre système économique. Et encore dans les derniers rapports du GIEC, on enjoint souvent un peu des déclarations de bonnes intentions avec lesquelles on ne peut qu'être d'accord, c'est-à-dire voilà, une agriculture beaucoup moins énergivore, des modes de vie beaucoup plus respectueux de l'environnement, etc., etc. Mais on fait pas le lien avec des politiques qui sont mises en place et qui sont fondamentalement contradictoires avec les objectifs qu'on devrait atteindre.
On va revenir à ces politiques. Alors vous démontez une par une donc les idées reçues, les croyances, les théories erronées sur le changement climatique. On va prendre quelques exemples si vous voulez bien. Il y a ceux qui pensent que le réchauffement climatique est un phénomène naturel, qu'il y a toujours eu des hausses et des baisses de température et que finalement l'homme s'en est toujours servi. Pourquoi ont-ils tort ?
La plupart des mythologies, en fait, il y en a beaucoup qui sont pas fondamentalement fausses, mais à nuancer. Et celle-ci en fait partie, par exemple, depuis les débuts de notre planète, il y a eu des variations de climat, ces derniers siècles également. Maintenant, ces variations de climat, elles étaient exclusivement la cause de phénomènes naturels. L'orbite terrestre, la position par rapport à d'autres planètes, des éruptions volcaniques, bref, toute une série de facteurs. Là, maintenant, les choses sont différentes parce que d'une part, ce réchauffement est provoqué, maintenant c'est incontestable, par l'activité humaine, principalement par la combustion d'énergie fossile, la déforestation, bref, on commence un peu à connaître ça. Et également aussi, c'est que ce réchauffement climatique est beaucoup plus rapide que les réchauffements précédents, et beaucoup plus durable. Donc du coup, c'est un réchauffement qui va avoir des effets, qui va s'accélérer encore pendant maintenant des centaines d'années, et donc qui va changer profondément nos sociétés.
Alors vous en parliez tout à l'heure, vous épinglez dans votre livre le technosolutionnisme, la croyance que la technologie nous sauvera. Cette fois, vous en êtes sûr, il n'y aura pas de solution technologique miracle?
Mais de nouveau encore, le débat souvent est présenté comme ça. Soit on pense que la technologie va nous sauver, soit on est considéré comme des technophobes. Je me souviens que votre président avait parlé de partisans de retour à la bougie, etc., ou de Amish. Bon, l'idée en fait n'est pas là. Le problème en fait, c'est de se poser la question, est-ce que des solutions technologiques pourront être mises en place pour surmonter les défis qui s'annoncent? Alors, des solutions technologiques, il y en aura, ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'elles seront suffisantes? Là, j'en suis pas du tout sûr. Et quand on parle de technologie, en fait, on oublie souvent, on ne pose pas les questions fondamentales. Souvent, on s'arrête sur des débats techniques. Alors en plus, c'est souvent très complexe, parce que quand on n'est pas ingénieur, on est vite perdu dans des chiffres, des études, etc. Mais des fois, il y a des questions de bon sens à se poser. Une des premières questions à se poser, c'est la question des délais entre l'existence d'une technologie et sa mise en place à grande échelle. C'est un exemple que je cite souvent, c'est celui de la voiture électrique qui nous est présentée comme le Graal en matière d'écologie. Alors, est-ce que la voiture électrique est mieux qu'une voiture thermique? Bon, visiblement, oui, à certains égards. Maintenant, ça pose d'autres questions, mais une question
parce qu'elle est polluante de notre côté.
Voilà. Et maintenant, ça pose la question des ressources, évidemment, de l'extraction, qui est souvent faite sous d'autres latitudes. Mais ça pose également la question, est-ce que c'est possible, et même est-ce que c'est souhaitable, de généraliser la voiture électrique par le monde, en sachant qu'il y a plus ou moins 1 milliard de voitures qui roulent sur la planète? Et quand on pose la question sous cet angle-là, poser la question, c'est y répondre. C'est pas possible en termes de ressources, en termes de conséquences, en termes de recyclage des anciennes voitures, etc. Et c'est même pas souhaitable non plus. Donc, le débat, en fait, n'est pas du bon côté. Le débat, ce serait plutôt de repenser toute notre civilisation automobile, de repenser notre aménagement du territoire, notre centralisation dans les métropoles, la fermeture des services publics de proximité. Donc, bref, essayer de questionner beaucoup plus ça. Donc, le problème des technologies, c'est que le débat se pose souvent dans le sens, on cherche une technologie miracle pour continuer exactement comme nous sommes en train de faire. Et c'est ça le problème, c'est que nous ne pouvons pas continuer comme nous sommes en train de faire.
Autre idée fausse, le numérique est écologique. Vous rappelez, et on l'oublie un peu trop, que le numérique est en réalité une industrie qui a des effets écologiques néfastes.
Oui, tout à fait. En fait, il y a à tous les échelons, à tous les maillons de la chaîne, ça commence par la production, puisque pour tous nos appareils, etc., tous nos câbles, il faut extraire des ressources, dont l'extraction est ultra polluante, qui provoque des déplacements de population, la destruction de biotopes. Alors, on n'en parle pas parce que c'est souvent dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, etc. L'assemblage des appareils, le transport des minerais dans les usines, la fabrication, etc., pollue énormément. Le stockage des données, la consommation d'électricité, bref, toute une série. Donc le numérique a un impact écologique faramineux. Et en fait, ça c'est vraiment une hypocrisie, je pense, parce que encore une fois, dire ça, c'est pas être anti-numérique. Mon livre, forcément, a été écrit avec un ordinateur. Là, nous discutons avec des technologies numériques. Mais la question est d'essayer de lever le voile sous son faux aspect écologique. Et en fait, c'est un peu une réflexion plus large que ça. C'est celle de la dématérialisation de nos sociétés, où on parlait il y a quelques années de sociétés post-industrielles. Mais en fait, nos sociétés n'ont jamais été aussi industrialisées. Simplement, les industries ont été délocalisées ailleurs. Et en fait, on se fait un espèce de petit cocon plus ou ou moins propre, avec un air qui est relativement plus pur dans les villes qu'il y a encore quelques décennies, mais en allant foutre en l'air l'environnement sous d'autres latitudes. Donc c'est ça aussi, vous avez dit tout à l'heure que j'étais prof de géo, je pense que la géographie peut apporter aussi beaucoup de choses à la compréhension de la crise écologique en mettant en lien des dégradations qui sont faites ailleurs avec des systèmes de consommation ici.
Alors du coup, vous préconisez la sobriété numérique, mais ça veut dire quoi concrètement la sobriété numérique ?
Alors bon, il y a évidemment des choses qu'on peut faire individuellement. Maintenant, on sait très bien que les gestes individuels ne suffisent pas. Donc moi, je pense qu'il faut déjà remettre en question des choix de société qui sont en train d'être mis en place. On parle beaucoup de la 5G, par exemple, qui est une aberration totale à tout point de vue. Donc déjà ça. Et puis voilà, moi, en étant prof aussi, je pense qu'il faut se poser la question de la numérisation de l'enseignement et en gros, la numérisation de nos vies en général. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir un écran à la pharmacie qui nous annonce les différents produits ? Enfin, bref, il y a toute une réflexion à avoir et c'est vraiment cette omniprésence des écrans qui a condamné. Et ce combat n'est pas neuf, hein. Il y a toute une série de collectifs qui luttent déjà depuis des décennies. Et que contre ça. Et puis on pourrait même rajouter des effets délétères sur le cerveau des enfants et des jeunes. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'arguments qui remettent en cause en fait cette histoire du numérique vert, écologique, etc. Et en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça.
C'est pas du vent. Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Si loin de tes yeux. De ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime.
Dans ta radio, le nouveau titre de M sur RFI dans C'est pas du vent. Nous sommes toujours en compagnie de Renaud Duterme qui publie Nos mythologies écologiques, déconstruire les idées reçues sur le changement climatique aux éditions Les liens qui libèrent. Renaud Duterme, en quoi l'explosion des inégalités et l'accaparement des richesses par une minorité sont-ils à l'origine de la crise écologique ?
Alors là, ça c'est une très bonne question, une vaste question. En fait, donc cet accaparement des richesses et cette explosion des inégalités, elles sont au cœur de notre système. En fait, notre système ne peut pas ne pas être inégalitaire, notamment parce que le système capitaliste, clairement, pour des raisons que j'ai déjà évoquées, c'est-à-dire que le système en fait doit à tout prix externaliser les conséquences du mode de production, en particulier les conséquences écologiques et sociales. Et en les externalisant, on les externalise souvent ailleurs. Donc c'est ça un peu le système, par exemple dans nos pays occidentaux, ne tient et n'est légitime, à mon sens, que parce que les effets les plus délétères sont ailleurs. On a parlé d'extraction de ressources, on pourrait parler également d'exploitation de la main-d'œuvre, etc. Donc le capitalisme est fondamentalement inégalitaire et on voit que ces inégalités, en fait, sont au cœur du problème, notamment écologique, parce que d'une part, on sait que les inégalités nourrissent la consommation permanente. On sait qu'en général, ce sont les classes les plus riches qui sont les qui ont une empreinte écologique les plus importantes. Et on sait aussi que ça, c'est quelque chose qui a été théorisé déjà au 19e siècle, que des fortes inégalités incluent un effet d'imitation des classes inférieures. C'est-à-dire qu'en gros, chaque classe sociale essaye d'imiter les classes supérieures. Et donc, c'est un puissant moteur pour la machine économique où on consomme en fait toujours plus. Et à l'inverse, les classes supérieures ont toujours tendance à acheter des choses que les classes inférieures ne peuvent pas acheter. Il y a d'autres exemples également, c'est que qu'on pourrait mentionner, c'est que la pauvreté aussi induit des logiques de survie quotidienne qui empêchent aussi des fois une prise de conscience écologique. On sait par exemple que dans beaucoup de pays d'Afrique, une des causes de la déforestation, c'est simplement le fait que beaucoup de villages n'ont pas d'électricité. Et donc que le bois est leur seule source d'énergie pour s'éclairer, pour se chauffer, pour cuisiner, etc. Donc voilà, juste quelques exemples comme ça, mais où on voit en fait que ce sont souvent le fait... On ne pourra pas en fait avoir une transformation écologique profonde sans une redistribution des richesses et sans également
une refonte du fonctionnement de nos sociétés, de nos modes de vie.
C'est ça, tout à fait. Et arrêtez aussi cette logique d'accaparement. Je vais vous donner un dernier exemple aussi qui sera peut-être plus parlant. On parle beaucoup maintenant d'agroécologie. Il faut relocaliser l'agriculture. Il faut une agriculture beaucoup plus en accord avec les écosystèmes, etc. Mais comment envisager ça à grande échelle si on ne remet pas en question l'accaparement des terres par des grandes entreprises, par des grandes propriétaires, par des grandes multinationales? On sait que dans beaucoup de pays, que ce soit au sud, mais même au nord, c'est l'accès à la terre qui pose beaucoup de problèmes. Et donc, on ne pourra jamais envisager une agriculture qui est quand même, quand on reprend l'agriculture industrielle, qui est responsable, ça dépend des chiffres, mais pour certains, de quasiment un quart des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. On ne pourra jamais résoudre ce problème sans d'abord mettre des réformes agraires puissantes et des soutiens des pouvoirs publics pour l'accès à la terre à des petits paysans. Donc voilà, il y a des exemples comme ça, il y en a des dizaines, mais ça montre bien en fait que l'écologie, en gros, ne peut être que sociale. On ne peut avoir une écologie qui ne tient pas compte de ces déséquilibres.
Et pour vous, s'il faut en finir avec le système capitaliste, il faut opter pour la décroissance ?
Une décroissance, c'est inévitable. C'est-à-dire qu'elle surviendra, et d'ailleurs, elle est déjà partiellement là. C'est-à-dire qu'on voit qu'en termes de ressources, en termes de raréfaction de l'énergie, en termes d'épuisement des terres, etc., la décroissance est déjà là et va s'aggraver. La grande question, c'est comment est-ce que faire pour que cette décroissance ne soit pas synonyme de barbarie, de précarité,
de pauvreté, d'insécurité.
Voilà. Et ça, en fait, la décroissance dans un système capitaliste, c'est la catastrophe, ça s'appelle la récession, parce que nous sommes dans un système qui a besoin de croissance. Donc il faut absolument avoir des logiques, des autres logiques, sortir du cadre capitaliste pour envisager un peu des solutions d'autres croissances, de même de décroissance matérielle, mais compensée par d'autres choses. Un des slogans de la décroissance, c'est voilà, en compenser le moins de biens par plus de liens. Parce que là, c'est quelque chose qui est assez théorique, mais si on prend des mesures concrètes qui pourraient être mises en place, c'est un redynamisme des services publics et des services d'aide à la personne, de santé, d'éducation, la culture, c'est tous des secteurs qui sont relativement économes écologiquement et qui pourtant sont synonymes de bien-être. Donc quand on parle de décroissance, c'est avant tout de sortir de cette religion de la croissance, de cette croissance du PIB qui ne veut absolument plus rien dire, puisqu'on sait qu'un carambolage par exemple peut contribuer au PIB. Et à l'inverse, du bénévolat ne contribue en rien au PIB. Donc quand on parle de décroissance, c'est vraiment ça. Maintenant, ce qu'il faut vraiment oublier, c'est que voilà, cette décroissance doit absolument s'accompagner par une logique de démarchandisation de notre société. C'est-à-dire que maintenant, le problème, l'économie, et c'est un des traits du capitalisme, l'économie a emprise sur toute notre société, que ce soit la santé, la culture, les transports, l'aménagement du territoire. Et donc, il faut absolument sortir des nombreux aspects de nos sociétés de cette logique marchande. Et ce sera un préalable à un changement écologique et social global.
Alors on pense avoir une conduite écologique hein, en adoptant des gestes individuels comme débrancher tous les appareils en veille, télé, box, micro-ondes, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, trier ses déchets. Tous ces gestes, c'est bien, mais c'est largement insuffisant quand on vous lit pour contenir la hausse des températures. Pourquoi ?
c'est déjà insuffisant par les chiffres. C'est-à-dire qu'il y a, notamment une association qui s'appelle Carbone 4 qui a regardé, en gros, pour la France, si tous les Français et toutes les Françaises avaient vraiment un comportement idéal, entre guillemets, ce ne serait qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre qui seraient résolues, entre guillemets, qui ne seraient pas émises. Donc, il reste les trois quarts du problème. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ces gestes individuels qui sont déjà effectués par une majorité et quand on y pense, en fait, chez beaucoup de gens, c'est du bon sens. Mais le problème de ces gestes individuels, c'est que en fait, beaucoup de ces gestes dépendent de choix politiques beaucoup plus larges. Je vais prendre un exemple, moi qui vis en zone rurale depuis toujours. On culpabilise un peu, on enjoint les gens à moins prendre leur voiture. Mais dans le même temps, on a des services de public de proximité qui ferment, on a des maternités, des bureaux de poste qui ferment, on a des réseaux de transport en commun qui sont démantelés ou qui sont privatisés. On a une concentration des emplois et de l'activité économique dans les villes, ce qui conduit les gens à faire des dizaines de kilomètres pour aller travailler. Donc, en fait, il y a énormément de gens qui sont dépendants de leur voiture. Et on a vu ce que ça a donné, d'ailleurs, avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc, le problème de ces petits gestes, si on focalise l'écologie sur les petits gestes, c'est un des gros problèmes de l'écologie dominante depuis 30 ans, à mon sens, c'est qu'on a une écologie qui est culpabilisatrice et qui est réservée uniquement à une certaine classe de privilégiés. C'est-à-dire que quand on regarde maintenant, il y a énormément de petits gestes, en tout cas de gestes qui sont considérés comme tels, qui sont réservés à ceux qui en ont les moyens. Acheter une voiture électrique, installer des panneaux solaires, manger bio, consommer hors des supermarchés. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on a en fait une écologie de privilégiés et on ne voit jamais l'écologie qui est déjà à l'œuvre chez les classes populaires. Si on prend les classes les plus pauvres, ça fait très longtemps que les gens réparent, vont au bout des choses, de leur voiture, etc. etc. Alors je fais pas l'éloge de la pauvreté ici, mais je dis juste que l'écologie doit absolument s'inspirer de ça aussi. Et de manière à amener un peu une vision populaire de l'écologie et pas une écologie qui est réservée à une élite et qui est déconnectée des réalités sociales que vit une majorité.
Alors justement, hein, prédire l'apocalypse, culpabiliser les gens, on s'aperçoit bien que c'est contre-productif. Alors comment convaincre les gens qu'ils doivent apprendre à vivre avec moins et qu'ils trouveront le bonheur dans la sobriété, référence à la sobriété heureuse que professait Pierre Rabhi?
Il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est déjà d'une conscientisation du problème et vraiment des causes du problème. Parce que le problème de l'écologie jusque maintenant, c'est que justement, on ne fait pas vraiment le lien avec le capitalisme, avec notre système économique, et on fait croire aux gens qu'on pourra vivre exactement de la même façon avec quelques petites mesurettes. Non, il va falloir vraiment convaincre les gens que l'avenir très proche va devoir changer et va changer de toute façon. On le voit notamment avec l'explosion des prix de l'énergie, par exemple. Donc ça, c'est une première étape. Une deuxième étape, c'est d'amener des mesures qui sont écologiques mais qui sont avant tout sociales. Et c'est ça le problème. Moi, j'aime, quand on parle de sobriété heureuse, moi j'ai quand même un petit peu du mal avec ça parce qu'encore une fois, c'est souvent une sobriété heureuse qui est réservée à ceux qui en ont les moyens, ceux qui ont le temps, ceux qui ont le capital culturel, etc. Moi, je pense qu'il faut absolument mettre la priorité sur des mesures qui sont écologiques, mais surtout sociales, c'est-à-dire qui améliorent ici et maintenant le bien-être des habitants. On pourrait envisager la réduction du temps de travail sans perte de salaire. On sait que les grandes entreprises, etc., nos pays n'ont jamais été aussi riches en termes absolus. Donc ça impliquerait une redistribution des richesses. On sait que les gens travaillent moins, peuvent beaucoup plus facilement s'impliquer dans un changement local, collectif, etc. On peut envisager également aussi des systèmes de taxation qui sont progressifs, des taxations de l'énergie, de l'eau, des transports, etc., qui visent à décourager la surconsommation. Et ça, ce serait des taxes, contrairement aux taxes qui ont été mises en place récemment en Belgique, en France ou quoi, ce sont des taxes qui privilégient en gros les classes populaires, en tout cas qui bénéficient beaucoup plus aux classes populaires. Donc on a toute une série de mesures comme ça. Je ne suis pas un homme politique, mais en tout cas, il faut vraiment, à mon avis, envisager des solutions qui visent à une écologie sociale. Sinon, on a une écologie, encore une fois, qui ne parle pas aux classes populaires. Il suffit de voir un peu l'écologie, quand on regarde, a été la grande absente de la présidentielle française. Et à mon avis, ça se comprend d'une certaine manière, parce qu'à force d'amener une écologie culpabilisatrice, etc., qui n'a pas une analyse systémique globale, on perd les gens et tout le monde en a ras-le-bol de l'écologie.
Plus un pays est riche, plus il est respectueux de l'environnement. Ça aussi, c'est une idée erronée. Et vous citez les cosmologies africaines, amérindiennes ou asiatiques, dont nos sociétés occidentales et industrialisées devraient s'inspirer ?
Oui, je pense. Maintenant, ici, il n'y a pas une idéalisation qui est faite, mais clairement, c'est souvent quelque chose qui revient. C'est voilà, il suffit d'aller vous balader dans certaines villes africaines, c'est beaucoup plus sale que chez nous, etc., etc. Bon, oui, ça, il y a eu une réalité dans certains cas. Maintenant, encore une fois, il faut bien se rendre compte que si notre environnement est en apparence, en tout cas, relativement propre, encore une fois, c'est parce que des industries, des projets de mines, etc., ont été externalisés ailleurs. De plus, il faut bien se rendre compte aussi que la plupart des pays du Sud ne sont pas homogènes. Et au sein de ces pays-là, vous avez énormément de territoires et de classes sociales qui subissent l'accaparement et la dégradation d'entreprises multinationales pétrolières, gazières, minières, agricoles et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'en fait, il faut essayer d'éviter d'opposer un peu les différents pays entre eux. Et je pense qu'on a tout à gagner. Comme je disais tout à l'heure, que l'écologie a à s'inspirer des vécus des classes populaires. Elle a aussi à s'inspirer de traditions d'autres pays, d'autres continents qui ont quand même, avant la colonisation, fait leur preuve d'une relative bonne cohabitation avec leur environnement, même si sur tous les continents, vous avez des sociétés antérieures qui ont bousillé leur écosystème, c'est arrivé, mais on a quand même aussi des choses qui sont à prendre en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie.
Merci beaucoup Renaud Duterme d'avoir été l'invité de C'est pas du vent. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « Nos mythologies écologiques » paru aux éditions Les liens qui libèrent. Et merci à notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet, d'avoir permis ce duplex avec vous. On écoute Didier Awadi et Smokey, « La patrie ou la mort » et on retrouve juste après Blandine Sankara.
Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui baillonnent leur peuple.
Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Avec le style, avec le fond, avec la forme, il s'empara, sans apparat. Le pouvoir qu'il met au départ, elle tentera, malgré les pièges qu'on lui brandira, de rendre sa dignité à l'opprimé, on le nommera. Père du Burkina, combattant, on le chantera. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Le militaire gère, visionnaire, révolutionnaire, révolutionnaire. J'ai plus de mots dans mon dictionnaire. Fils du peuple, pour le peuple, c'est un solidaire. Le vrai dignitaire, intègre, mais pas le sanguinaire. La veuve, l'orphelin, le pauvre, on doit au sourire. Le bonheur est à nous, par nous seul, on peut le définir. Les puissants paniquent, complotent, il faut le retenir. Sankara se pose et ose inventer l'avenir. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine 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 Noël Isidore, Thomas Sankara. Père du Burkina, combattant, on le chantera.
Je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons, nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons, nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte.
La patrie ou la mort. Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons.
Il y a 10 ans, Blandine Sankara, sœur cadette du président du Burkina Faso, assassinée en 87, créait la ferme de Yélémani à Lumbila, près de Ouagadougou. On y pratique l'agroécologie dans le but de parvenir à la souveraineté alimentaire. Comme son frère aîné, Blandine Sankara ne mâche pas ses mots. L'indépendance alimentaire du Burkina Faso passera par la décolonisation des mentalités, affirme cette agroécologiste convaincue. Clémentine Métainier l'a rencontrée pour nous. Il lui a d'abord demandé ce que signifiait Yélémani.
Yélémani, c'est la langue djoula, donc ça signifie changement, transformation. Pour nous, c'est vraiment un mot qui traduisait la vision de l'association. Yélémani, c'est l'évolution, mais dans le sens, mais vraiment d'aller plus loin, de transformation. Donc ça traduisait mieux la vision de l'association. Parce que le verbe, c'est Yélémani. Quand Yélémani, ça veut dire aller plus haut. Aller plus loin. Ce n'est pas seulement un changement, mais c'est un changement positif.
Vous êtes à l'origine de ce projet. C'est une ferme agroécologique expérimentale où vous mettez en place des parcours d'éducation à la souveraineté alimentaire dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées. Vous initiez des campagnes d'information des consommatrices et des consommateurs, également sur la transformation des produits agricoles. Comment est né ce projet et 10 ans plus tard, comment ça se passe? Racontez-nous un peu le quotidien d'Ilemani.
C'est vrai que nous l'avons mis en place, on a commencé en 2012. Et Ilemani, c'est principalement 4 axes d'intervention dans lesquels on travaille, donc la production avec des techniques agroécologiques, la production maraîchère avec l'agroécologie. Et nous avons travaillé parallèlement à créer donc un marché de produits bio avec d'autres acteurs, parce que ce n'étaient pas des produits connus au Burkina. Et puis après la production, à côté de ça, on s'est dit, mais on ne peut pas travailler à démontrer aux populations qui sont à côté de nous, à sensibiliser ces agriculteurs-là par rapport au changement des pratiques agricoles, sans travailler sur l'autre acteur qui sont les consommateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, même la souveraineté alimentaire, c'était au départ, c'est un concept abstrait. Comment on le met en place, en pratique, la souveraineté alimentaire? C'est là que nous sommes arrivés aux 4 axes, avec la production et puis à côté, la sensibilisation, l'éducation à la souveraineté alimentaire qui se fait dans les écoles, dans des lycées avec des enfants, des jeunes, donc le jeune public là, qui est notre public cible, les jeunes et les femmes. Parce que, comme le nom l'indique, Ilemani, qui est un changement, on ne peut pas parler de changement, en tout cas de comportement, sans passer par les plus jeunes. Donc, deuxième axe, c'est vraiment ça, sensibiliser les petits commerçants dans les marchés, sensibiliser ce jeune public-là par rapport aux enjeux de la production, aux enjeux alimentaires.
Mais c'est aussi sensibiliser à la notion de local, qui est en fait mal vue, voire négative. Dans certains pays d'Afrique, est-ce que c'est général? Alors que chez nous, on voit bien ici, en France par exemple, un retour à ce... Enfin, un retour, en tout cas, c'est bien vu. Dès que c'est local, je fais la différence entre le local et le bio, hein, mais du coup, dès que c'est local, ah bah oui, il faut vraiment manger local, c'est important.
Tout à fait, parce que cette sensibilisation, cette éducation à la souveraineté alimentaire, elle se fait à travers des modules que nous avons montés nous-mêmes, 9 modules. Donc, entre autres modules, il y a le changement climatique, vous avez la question de l'eau, l'importance de l'eau chez nous. Et vous avez aussi à côté les paysans, un module qui est simplement les paysans. Qu'est-ce que c'est qu'un paysan au Burkina Faso? Quel est le pourcentage? Il faut que ces enfants le sachent. Quelle est la place du paysan? Pour que cette connotation négative qu'on a du paysan, on puisse la changer. Quand on insulte, on dit que vous êtes paysan. Dis simplement à quelqu'un que tu es un paysan. C'est dire que c'est quelqu'un d'analphabète, quelqu'un qui est de la campagne rétrograde, quelqu'un qui n'a pas... Donc, c'est aussi qu'on voit d'une autre façon, d'un autre œil, ces paysans-là. Donc, nous faisons des jeux de rôle, par exemple, avec les enfants, pour voir le groupe de consommateurs, des paysans, donc des producteurs, le groupe des commerçants, des transformateurs, pour comprendre que, en fait, ce groupe-là, de producteurs, paysans-là, c'est eux qui font que nous continuons de vivre. Donc, c'est redonner la place à la paysannerie, aux paysans.
Mais comment expliquer cette vision très négative?
Mais il faut voir les choses depuis la colonisation aussi. C'est à tous les niveaux. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est la référence? La référence, c'est la peau blanche, c'est l'homme blanc, parce qu'il connaît, parce qu'il est civilisé, parce que c'est... Voilà. Et qu'est-ce qui est positif? C'est celui qui a été à l'école, qui était à l'université, qui a côtoyé le blanc, qui a été dans le pays de blanc. Donc, nous sommes la référence parce que nous sommes dans la capitale, parce que je peux aller en Europe, parce que j'ai fait des études. Je suis proche, donc, de l'homme blanc. Qui est-ce qui vient, mais vraiment en dernier, dans toute cette catégorisation? C'est le paysan, parce qu'il est analphabète. Il est loin de tout ce qui se trame en ville. Il est celui qui est spectateur. C'est plus de 80% de la population là au Burkina. C'est eux les vrais acteurs, mais il se trouve que finalement, c'est des spectateurs. Qui comprend les choses, la démocratie, qui comprend ce qui se joue, les enjeux, qui comprend, qui peut lire et comprendre les choses et donner un... C'est des 10 à 15% que nous sommes des privilégiés. Donc comment voulez-vous que des jeunes puissent vouloir s'identifier à ces paysans-là? Donc nous travaillons avec les plus jeunes, à redonner une autre image du paysan. On invite des gens qui ont réussi à leur parler, on leur montre l'importance que sans ces paysans-là au Burkina, malgré les importations, on ne vivrait pas.
Mais du coup, au sein de l'IELEMANI, en apportant cette notion, ce concept et cette mise en pratique de l'agroécologie, vous faites encore un pas de plus. On n'est pas que dans le local. Comment on définit l'agroécologie et quels sont les enjeux aujourd'hui au sein de votre ferme, mais plus globalement? C'est que par ce biais-là qu'on arrivera à la souveraineté alimentaire?
C'est surtout par ce biais-là. L'agroécologie, au-delà des pratiques techniques, il faut voir plus loin que ça. Ce n'est pas seulement des pratiques techniques où on vous apprend à faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas ça. C'est un combat politique, l'agroécologie. C'est une manche de la souveraineté alimentaire. L'agroécologie va nous aider dans les pratiques à aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que la maîtrise des savoir-faire, ne serait-ce que ça. Si je sais comment, par exemple, on fait les semences, je ne serai plus dépendant. Si je sais comment on fait les phytosanitaires, aujourd'hui, vous avez à IELEMANI nos femmes qui fabriquent elles-mêmes les phytosanitaires. Avec le gingembre, avec le piment, avec l'ail.
Mais naturel.
Naturel, avec notre mortier et les pilons, nous fabriquons nos produits. Manger bien, sainement, mais aussi c'est un combat. Je veux contrôler ce que je mange. Je veux contrôler comment faire les choses pour ne pas continuer d'être dépendant de l'extérieur. Si vous prenez ce qui est arrivé au Burkina, il y a Covid, il y a le coup d'État, on a fermé les frontières, on ne peut plus rentrer. Les paysans qui sont dépendants des intrants pour lutter contre les ravageurs, les magasins sont vides, des commerçants, comment nous faisons? Économiquement, c'est beaucoup moins cher de fabriquer soi-même ces produits que d'acheter ce qui est importé. Vous allez dans les villages où nous travaillons à Lumbila et autres, même les enfants, les paysans vous parlent du Japon. Le produit s'appelle Japon. Le produit s'appelle tous ces produits toxiques là, que quand vous utilisez et que vous jetez même la boîte vide, hein, l'eau de ruissellement des pluies amène la boîte dans les puits, dans les jardins. Ça tue tout ce qui est vivant dans le puits. Tous les têtards et autres là remontent à la surface parce que ça tout tue. Une boîte vide. Vous vous imaginez ce que ça fait comme dégâts sur la santé? Parce qu'on manipule, on ne porte pas de gants, on manipule comme ça. Et puis on aspire parce qu'on ne porte pas de masque.
Il faut revenir expliquer ça.
Expliquer ça. Et ça, ils ont conscience, hein. Ils le connaissent mieux que nous, ces paysans-là. Ces maraîchers, en tout cas, ils travaillent avec ça. Ils vous disent effectivement les maux de tête que ça donne parce que vous inspirez, parce que ça... Et les gens même que ça tue, parce que quand c'est mal lavé, tout ce qui est produit cru.
Et vous prenez aussi un retour aux pratiques traditionnelles ancestrales. Et ça, j'ai l'impression que c'est au cœur aussi de votre projet.
En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui agroécologie, ce sont des pratiques que nous connaissions. C'est vrai, on amène d'autres choses. Et d'ailleurs, on améliore, la recherche améliore, pour ceux qui, en tout cas de la recherche, qui sont dans l'agroécologie, améliore ces pratiques-là. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller prendre textuellement ce qui se passait dans 100 ans, il y a 100 ans. Aujourd'hui, si je vous fais le taux, qui est le plat principal, il sera différent qu'il y a 50 ans. C'est nécessaire, on évolue. Mais c'est leur dire que ces pratiques-là, ils le voient dans l'agroécologie. C'est des pratiques qu'ils connaissent. Ils ont plus de facilité de le faire. Ils ont plus de facilité pour obtenir la matière première.
Mais certains ont oublié, les jeunes générations, on ne leur a jamais transmis.
C'est là aussi le véritable problème, parce que nous venons aujourd'hui pour des formations en agroécologie. Parfois encore, une fois de plus, c'est des gens du Nord, ici, qui viennent nous apprendre l'agroécologie. Ces pratiques-là, qu'on appelle agroécologie, mais pour nous, finalement, les femmes disent « Ah, mais c'est ce qu'on faisait, oui, 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 nos grands-parents. » On nous met dans une salle pour nous apprendre, on connaît.
La lune,
la permaculture, on va vous dire qu'il faut aller avec la lune, selon le truc, pour planter et tout le reste. Bon, bref. Et l'autre danger, c'est que vous avez aussi ces gens-là de la campagne qui vous disent, mais c'est difficile. C'est vous, les gens instruits, là, qui nous avez dit d'abandonner ces pratiques-là à un moment donné, il y a 50 ans, il y a 60 ans. Ce qu'on appelle les encadreurs agricoles qui ont été formés à l'université, à des écoles d'agriculture. On leur a appris le conventionnel. C'est tout ce qui est la productivité, pour gagner plus, pour produire plus, il faut faire comme ça. Donc, on a abandonné. C'est vous qui venez encore aujourd'hui nous dire que ça, ce n'est pas bon. Oui, on se moque un peu d'eux. Ils le voient comme un retour en arrière, et c'est ça aussi le danger.
Et comment vous voyez cette avancée? Yélémani, c'est tout petit? Ou vraiment vous avez espoir que ça SM rapidement, que les mentalités puissent changer assez rapidement, surtout avec le contexte international auquel on va être confronté là ces prochaines années?
Oui, c'est vrai que les associations, les ONG, et encore avec celle du Nord, pas derrière, on a beaucoup, de plus en plus, en tout cas en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Burkina, au Bénin, au Mali, au consort, au Sénégal, et des associations, des ONG qui sont dans le domaine de l'agroécologie. Mais ce que nous disons, en tout cas à Yélémani, l'agroécologie, ce n'est pas seulement que technique. Ce n'est pas montrer aux gens comment il faut faire. C'est le combat politique. Donc il faut leur parler des enjeux, des conséquences économiques, de l'indépendance que nous voulons. Il faut qu'on fasse le tour de toute la question pour que les gens puissent prendre conscience de ce que c'est cette affaire d'agroécologie ou de souveraineté alimentaire, vers quoi nous voulons aller. Parce que quand vous dites ce n'est pas détruire la terre, c'est garder, préserver la biodiversité, c'est ces questions-là, je ne suis pas sûre qu'ils comprennent que ce n'est pas mon fait-là, que dans 20 ans, dans 30 ans, mes enfants, mes arrière-petits ne vont pas pouvoir vivre. Il faut prendre ce qui est arrivé avec la Covid. C'est clair et net que on arrive à s'en sortir, même si on ferme les frontières. Moi, je sais comment fabriquer des produits à l'interne. Moi, je sais comment fabriquer, faire des semences. Moi, je sais comment faire parce que je maîtrise toute la technique, parce que j'ai des connaissances. Concrètement, il faut présenter les choses comme ça. Chez les femmes, par exemple, c'est une confiance en elles-mêmes. Elles retrouvent une confiance en elles-mêmes. Elles retrouvent une valorisation. La villageoise, là, qu'on dénigre, la villageoise qu'on voit mal parce qu'elle n'a pas été à l'école, parce qu'elle mal, elle se présente pas bien, qui vient donner des cours, qui vient former des gens sur l'agroécologie, ça la valorise, la femme analphabète au village. Une forme de fierté. Quand nous parlons de souveraineté alimentaire à Yélémani, on a dit qu'il y a aussi la fierté. Il faut que je redresse la tête pour dire que je connais, j'ai pas besoin de... Et ça, c'est très fort. Quand on ne sait pas nos pays, là, en Afrique, d'où nous sommes partis, toute l'histoire, on ne peut pas comprendre pourquoi nous parlons de ça. C'est très important. On a un problème avec nous-mêmes, en tant qu'Africains. On a un sérieux problème. On ne se fait pas confiance, parce qu'on a travaillé à ça. On a tout abandonné, que ce soit les religions, que ce soit justement les langues, que ce soit la culture, que ce soit... Nous sommes des personnes... Je ne sais pas si on est en transition, vers quoi, c'est pour aller où, on ne sait pas. Mais nous avons abandonné pas mal de choses aujourd'hui et je ne sais plus qui je suis. Je ne suis pas cet Africain aussi qu'on peut mettre au même niveau que l'Européen parce que j'ai été à l'école, parce que je suis au même niveau. Même quand je parle la langue, je ne la parle pas comme un Français ou un Américain ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'on se cherche. Les Africains se cherchent aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut remettre ça. Quand, pour vous raconter une anecdote, vous avez l'ancien président français, Chirac, qui est au Burkina, et qui arrive à la fin de sa visite, qui demande à manger burkinabé. C'est par sa nourriture qu'on connaît le pays, manger burkinabé. Le protocole était embêté parce que où est-ce que tu amènes un chef d'État français pour manger? Il n'y en a pas. Vous avez des restaurants chinois, asiatiques, vous avez indiens, vous avez japonais, vous avez... Mais vous n'avez pas burkinabé parce que il y a une question culturelle. Est-ce que nos plats ont de la valeur aux yeux de l'étranger, nous-mêmes d'abord à nos propres yeux, puisqu'on a tendance à regarder plutôt ce qui vient, c'est ça qui a de la valeur, ça ne fait pas chic de dire que tu vas manger burkinabé, ça ne va jamais marcher. Personne ne croit en ça. Et ça veut dire que nous nous replaçons à Yélémani, ça aussi au cœur des débats. Donc tout ça, nous disons, il faut qu'on ramène toutes ces questions dans la souveraineté alimentaire. Donc nous disons, et aux autres, il n'y a pas seulement que le côté technique des choses, il faut voir au-delà de ça. Et c'est pourquoi nous travaillons aussi avec les médecins. Les médecins pour tout ce qui est côté santé. Pour qu'ils expliquent que c'est de par leur consommation qu'on a, par exemple, certaines maladies qui deviennent des maladies de santé publique, comme l'hypertension dans nos pays. C'est l'utilisation de tous ces exhausteurs de goût-là. Quand je faisais mes études à Genève, il y avait, je ne sais plus quelle activité, on a demandé qu'on fasse des repas. Mais vous voyez que les Africains, en tout cas les Africains de l'Ouest, ils étaient à la recherche du cube magique. Parce que sans ce cube-là, tu as beau le présenter en poudre, quoi. Non, il faut le cube-là. On ne bouge pas, on vit à l'occidental et on est assis du matin au soir sans bouger, on ne fait pas assez de pratiques sportives. Donc, c'est pour ça que Yélémani ramène sur la table toutes ces questions-là qui font penser et qui nous ramènent au passé, à qui nous avons été, qui nous sommes aujourd'hui pour aller vers l'avant-demain.
Merci beaucoup, Blandine Sankara.
C'est moi qui vous remercie. Merci bien.
Blandine Sankara répondait à Clémentine Métainier. Et si nous allions sur place, au Burkina Faso, voir justement comment on travaille à la ferme de Yélémani, c'est un reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani.
En attendant l'installation des pluies, l'équipe du jardin Yélémani prépare les sols. Avec des houes et des pioches, il faut mettre en place un système pour retenir l'eau du ruissellement. Malik Kinda est le chef d'équipe.
Il peut arriver que le sol est très compact. Vous pouvez délimiter avec le système de 2001. Vous faites un système d'arc. Maintenant, à l'intérieur du cercle, vous décompactez. Maintenant, avec de la matière organique telle que le compost, vous pouvez travailler à l'intérieur. Ça veut dire que le compost, il a un quoi ? En fait, il contient une substance, acide organique, qui permet de stabiliser, engranger les éléments de ce sol pour rendre la structure très stable.
Pour restaurer les sols, l'un des éléments fondamentaux reste le compost.
Les ingrédients qu'on utilise pour le compostage, il y a la paille, il y a la bouse de vache, il y a de la cendre qu'on utilise, il y a les feuilles de nîmes qu'on utilise. On peut aussi utiliser la poudre d'os. Tout ce qui est matière organique dégradable est utilisable dans votre compost.
Une bonne partie du jardin sert à la culture. Tomates, oignons, oranges, citrons, carottes. Vu la rareté de l'eau, les plantes sont cultivées en fonction des saisons. Oumou Gibiluego a entamé l'arrosage de ses plantes grâce à un forage.
L'arrosage se fait tous les 2 ou 3 jours en fonction des plantes. Il y a également certaines plantes qui ont besoin d'être arrosées tous les jours. C'est le cas par exemple des épinards et de la betterave. L'oseille et les feuilles d'haricots, par contre, n'ont pas besoin de beaucoup d'eau.
Après quelques mois de travail, Jeanne Savadogo prend en charge sa famille grâce à cette ferme. Même si elle a encore en mémoire ses heures de préparation des sols. Sa production est écoulée sur les marchés consacrés aux produits ayant la certification biologique. Pour protéger les sols et les conserver pendant longtemps, c'est le système de rotation culturelle qui a cours ici. Chaque saison correspond à une culture bien précise.
Produire la même spéculation tous les jours, à tout moment, sur un même sol, ça contribue à la pauvreté. C'est-à-dire qu'il faut faire une rotation. Par exemple, vous pouvez mettre des légumes graines ici cette fois-ci. La prochaine campagne, vous mettez peut-être des légumes racines. Et les racines vont aller en profondeur, ça va contribuer à ameublir le sol. Ils vont aller chercher les éléments minéraux qui se trouvent vraiment en profondeur. Après, vous envoyez des légumes fruits et vous apportez encore du compost pour compenser le manque d'éléments nutritifs dans le sol.
À la ferme Yélémani, l'utilisation des produits chimiques est prohibée. Le traitement des cultures se fait avec des produits biologiques, selon Malik Kinda.
Le nimier que nous utilisons vraiment, c'est fait pour produire nos pesticides biologiques afin de pouvoir traiter nos insectes ravageurs. Et en plus de ça aussi, quand nous prenons le nimier, souvent nous le mettons souvent dans certains dispositifs pour vraiment enrichir la partie là en azote. Tout ça là, c'est des fleurs. C'est-à-dire le but là, c'est pour attirer vraiment les auxiliaires, également aussi repousser certains insectes ravageurs. Donc quand vous les mettez à l'intérieur du système, ils viennent. Et quand ils viennent, parallèlement, ils luttent contre vraiment les ennemis des cultures.
À la fin de chaque saison, certaines productions sont transformées sur place pour la conservation.
C'est pas du vent, touche à sa fin. Merci à François Porcheron pour la réalisation. À jeudi prochain et d'ici là, portez-vous bien.